Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même, et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser, à retirer de chaque épisode au moins un enseignement afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je reçois sur le gratin Grégoire Gibaud, kinésithérapeute depuis plus de 10 ans, enseignant en thérapie manuelle à l'ITMP, l'Institut de thérapie manuelle de Paris, conférencier aussi, consultant en entreprise et créateur de la célèbre chaîne Major Mouvement, où Grégoire met son expérience au service du grand public en vulgarisant la kinésithérapie avec humour et énergie. Vous pourrez le suivre sur Instagram et YouTube à Major Mouvement, je vous mets tout ça en lien. Et si vous voulez aussi vous adresser à lui de manière plus professionnelle, eh ben son compte LinkedIn, c'est Grégoire Gibaud. Faites-lui un petit coucou, il sera ravi. Je vous préviens, cet épisode est une bombe. J'ai absolument adoré avoir Grégoire sur le podcast. Je pensais passer peut-être 15-20 minutes sur son parcours, puis enchaîner sur les questions pratico-pratiques, sur comment mieux comprendre et prendre soin de son corps. Eh bien, en réalité, quand Greg m'a parlé de son parcours, je me suis fait complètement embarquer dans un tourbillon de réflexions, franchement aussi inspirantes que drôles, aussi percutantes que profondes, comme par exemple l'apprentissage, qui passe par le fait de s'approprier et restituer à sa manière le message, plutôt que de copier-coller ou d'apprendre par cœur bêtement. La difficulté d'être un professionnel de la santé, face notamment au fait de ne pas pouvoir faire de publicité. Ses astuces concrètes pour passer de 0 à 200 000 followers en à peine 2 ans sur Instagram, comment réussir à s'organiser quand on a autant d'activités que lui à gérer en même temps, et une famille également, l'obsession de la réussite qui fait oublier les choses essentielles de la vie. Un délice pour les oreilles, mais aussi pour l'esprit. Je n'ai qu'un regret au fond, c'est de ne pas avoir eu plus de temps avec Greg pour entrer plus dans les sujets passionnants aussi de comment mieux prendre soin de son corps. Un round 2 peut-être à l'horizon. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Grégoire Gibaud, alias Major Mouvement.
Salut Greg et bienvenue sur le podcast.
Salut Pauline, ça va?
Ouais, ça va très bien. Écoute, je suis ravie de t'avoir.
Moi aussi, je suis très content d'être là.
on a mis un peu de temps à se caler en plus avec nos agendas. Ouais. Greg, écoute, je voulais commencer tout simplement par parler un petit peu de toi d'abord, de ton parcours. Après, on parlera, si ça te va, de vraiment la kinésithérapie et de tous les conseils pratiques que tu peux donner aux auditeurs. Mais dans un premier temps, vraiment, je voulais commencer par parler de toi. Et alors, je te préviens, j'ai interviewé assez peu de médecins sur le gratin jusqu'à présent, donc je ne suis pas médecin, je n'y connais pas grand-chose. Donc, les questions vont parfois paraître très vulgarisatrices.
C'est mon but, c'est exactement ce que je fais, donc ça tombe bien.
Bon, parfait. Donc, ma première question est assez simple. Est-ce que tu peux m'expliquer tout simplement d'où tu viens et comment tu es tombé dans le monde médical? Est-ce que c'était une vocation? Enfin, c'est ce que tu voulais faire quand tu étais petit?
Ouais. En fait, j'ai vraiment eu cette vocation, je crois, à 13-14 ans. Je me vois très bien dans les couloirs du collège. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me dis, tiens, bah, j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'aider les gens. Et puis, après, j'ai été un peu bercé dans les séries médicales, notamment Nip Tuck, qui est peut-être pas la série la plus éthique, la plus éthique qu'il existe. Mais j'aimais ce côté où les mecs vivaient une vie à 300 à l'heure avec tous leurs défauts qu'on pouvait leur attribuer. Mais le côté où quand les mecs étaient pros, ils savaient vraiment faire ce qu'il fallait faire. Et puis après,
on peut quand même le dire, Nip Tuck, excuse-moi de t'interrompre, c'est une série avec, je crois que c'est deux médecins, c'est ça?
Deux chirurgiens esthétiques à Miami et qui sont complètement barjots. Ouais. Avec tous les clichés qu'on peut avoir en tête, ils l'exploitent à fond. Et donc ça a été un peu comme ça. Et puis après, l'aspect technique de la chose m'a beaucoup plu. Et puis après, encore une fois, grâce aux séries américaines, notamment Scrubs, qui était une série vraiment qui parlait des gens, qui parlait des liens et qui mettait un peu en retrait tout l'aspect technique. Et ça m'a conforté dans, là-dedans. Je suis, j'étais un élève très moyen. Je suis arrivé en fac de médecine à Paris, Paris 5. Et en tête, moi, ce que je voulais faire, c'était chirurgien esthétique aussi, mais pas pour l'aspect esthétique, mais vraiment ce qui me passionnait, c'était de réparer les corps, notamment les grands brûlés, les cicatrices. En fait, j'ai trouvé toujours ça hyper intéressant de voir à quel point, parce qu'on avait en fait une déformation physique, ça pouvait nous toucher et nous changer profondément de l'intérieur, ou du moins le regard des autres pouvait nous changer complètement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a animé pendant, ben, encore aujourd'hui, à quel point ce qu'on dégage de l'extérieur peut modifier ce qu'on a à l'intérieur. Et donc finalement, j'ai appris à travailler en première année de médecine et j'ai eu kiné. À quelques places près, j'ai loupé médecine. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est probablement le plus bel échec de ma vie. Parce qu'à posteriori, j'ai pu sortir de l'école à 23 ans. J'ai pu avoir du temps pour ma vie perso et trouver mon bon équilibre entre vie pro, vie perso. Et pour mon équilibre aujourd'hui, je pense que j'aurais pas eu la force ni l'énergie de me faire 10 ans d'études et 80 heures de travail par semaine.
Ouais, c'est sûr. Enfin, c'est vrai que c'est des choses dont on parle assez peu. Mais moi, par exemple, j'ai fait une prépa, donc rien à voir. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça, et c'est pas qu'il y en a certains qui sont moins bons que d'autres, etc. C'est juste que il y a aussi un côté. Il faut être un peu une espèce de bête de concours.
C'est exactement.
Il faut juste aimer l'apprentissage par cœur. D'ailleurs, j'avais fait un épisode une fois avec une neuroscientifique qui t'explique justement le fonctionnement de l'apprentissage. Et en fait, juste des personnes qui sont plus, par exemple, kinesthésiques, ce qui est peut-être honnêtement, juste apprendre par cœur des choses, c'est extrêmement difficile.
Exactement.
Quoi.
Et moi, je m'en suis rendu compte, c'est aussi des outils assez simples. Déjà, savoir quel est notre modèle d'apprentissage, comment est-ce qu'on apprend. Moi, je l'ai appris là-dedans. Où ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que pour apprendre, il faut que je m'approprie les connaissances à ma manière et qu'après, je fais comme si je donnais un cours. Avec mes mots. Alors, essaie de me faire apprendre un truc par cœur, c'est impossible. Essaie de retenir la logique d'un professeur, c'est impossible. Il faut que je me l'approprie. Ça a des avantages et des inconvénients, mais ça, c'est comme ça que j'ai appris. Et l'autre truc, tu vois, c'est que je me rends compte, aujourd'hui, à 32 ans, j'ai une bien meilleure capacité de travail et de concentration que je ne l'avais à 22 ans. Enfin, même pas à 18 ans, en fait.
Oui, bien sûr.
Donc, à certains moments.
Et ça, tu dirais que c'est venu. Enfin, tu peux expliquer comment c'est venu? Je trouve ça hyper intéressant. Alors, moi, j'adore ce genre de.
Moi aussi, ça me passionne. je pense que j'avais vraiment besoin de savoir pourquoi j'apprenais les choses. Ce qui m'a le plus bousillé, en fait, au lycée, c'est que j'avais vraiment l'impression que mon seul pourquoi était de devoir passer mon bac pour faire plaisir à mes parents. Et à partir du moment où maintenant, où tu es adulte, où c'est juste. Je suis vraiment capable de travailler beaucoup pour comprendre un truc qui va m'apporter à moi dans ma pratique au quotidien ou dans ma réflexion personnelle. Donc, probablement plutôt un leitmotiv ou un pourquoi fort et ce qui me permet de me motiver à fond dans le travail.
C'est sûr. Une question que je voulais te poser suite à cet échec. Enfin, là, tu te parles avec énormément de recul, mais j'imagine que sur le coup, c'était très dur. Et surtout, je sais qu'il y a quelque chose qui est très dur dans ce genre de cas, moi, pour l'avoir vécu, pour avoir aussi vécu des échecs dans mes études. C'est qu'en fait, tu as le regard des autres, ou en tout cas, ce que tu penses être le regard des autres, parce qu'en réalité, les gens souvent pas s'en fichent, mais sont quand même contents pour toi, et voilà, notamment des parents, de la famille. Est-ce que pour toi, ça a été un enjeu à ce moment-là ou pas tellement?
Alors, pas tellement, parce que étant élève très moyen, j'ai eu mon bac avec 10-27, j'ai toujours eu des résultats médiocres. Je pense que les gens n'osaient pas me le dire, mais quand ils m'ont vu me lancer en médecine, personne n'osait me dire, mais Grégoire, t'es une grosse fraude, tu vas jamais réussir à rien. Et du coup, mine de rien, le fait qu'au bout de 2 ans, j'ai réussi à avoir quelque chose, probablement qu'ils se sont dit, ce petit-là, il est peut-être pas si con, ou peut-être qu'il a quelque chose. Et inconsciemment, je pense qu'on m'avait tellement mis dans le cadre des mecs où on n'allait pas attendre grand-chose d'eux. Le fait de réussir à obtenir quelque chose, ça m'a fait énormément de bien. De me dire, tu vois, ils s'étaient tous plantés, en fait. Et que si tu avais demandé aux gens avant de te lancer en médecine, est-ce que tu penses que je peux le faire, tout le monde t'aurait dit, non, en fait, Greg, tu sais pas travailler, t'es pas le mec le plus brillant de la Terre, passe ton chemin. Finalement, j'ai réussi à avoir quelque chose. Donc, en fait, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est le plus bel échec de ma vie, c'est que j'étais parti perdant, j'ai réussi à obtenir quelque chose qui aujourd'hui est le métier que j'échangerais pour rien au monde. C'est un peu c'est aujourd'hui ma philosophie de dire, si tu laisses les gens mettre une barre beaucoup trop haute pour toi, eh bien la seule chose que tu auras, c'est des défaites et tu auras du mal à t'en remettre. Alors que si jamais tu regardes uniquement par rapport à ce que tu sais faire, ce que tu peux te donner les moyens de faire, quand tu y arrives, bah, tu es content.
Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est un vrai sujet et on va en parler aussi avec les réseaux sociaux, etc. Mais cette comparaison et ce que tu dis, que les autres mettent enfin, finalement des expectations, je cherche le mot, des exigences, des attentes voilà, qui sont... sont supérieurs finalement à ce que même toi tu rêves d'avoir ou c'est quelque chose je pense qu'on a du mal parfois à accepter et on a du mal à dire non donc
et tu vois si on reprend ton expérience c'est encore je pense plus présent dans le cas où t'as un cadre familial qui attend de toi que tu fasses prépa école de commerce ou fac de médecine pour devenir médecin t'as des attentes de la part des parents qui sont énormes à combler qui sont très dures en fait parce que si jamais pour X raison j'ai des amis comme ça et je pense que t'en as aussi qui se sont lancés dans de la prépa pour faire une école de commerce. Alors eux, ce qu'ils rêvaient, c'était d'être artiste, d'être écrivain et qui sont passés à côté d'une vocation pour faire plaisir à papa et à maman.
Et en général, à 35-40 ans, ça ne va pas être changé de vie.
Exactement.
Bon, et donc, tu tombes dans le monde de la kinésithérapie qui n'est pas du tout ce que tu avais prévu de faire. Et réaction, tout de suite, tu tombes dedans. Comment ça se passe? Me dire, voilà, les premières semaines de cours quand tu débarques, comment ça se passe?
Alors,
qu'est-ce qu'on apprend?
Ce qu'on apprend principalement, c'est l'anatomie. Et ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que t'as 20 ans et on t'en dit, bon, bah voilà, t'as passé ta scolarité sur les bancs de l'école assis à côté de tes amis habillés. Maintenant, tu vas te foutre en sous-vêtements devant 30 personnes et les uns après les autres, on va regarder exactement où s'insèrent les adducteurs, où s'insèrent les biceps et ainsi de suite. Donc, la réalité des cours de kiné, c'est vraiment la promo en sous-vêtements qui se regardent les uns les autres. Donc, ça explique aujourd'hui aussi la distance qu'on peut avoir vis-à-vis du corps humain. Et je pense que ça va encore plus loin pour les médecins qui eux passent 8 ans là-dedans, quoi. Donc, t'as ça, t'as des cours que j'ai trouvé absolument passionnants, notamment de dissection, où tu comprends vraiment que le corps c'est de la mécanique pure et dure. Bah, je garde vraiment ça en tête. Où on a fait la dissection de l'avant-bras. Et pendant que vous écoutez le podcast, à moins que vous soyez en voiture, je vous invite à ouvrir et à fermer la main, la paume vers votre visage, et vous allez voir vous allez voir des espèces de cordes le long de votre avant-bras. Ça, ce sont vos tendons. Ouais. Et en fait, quand on ouvre la peau et qu'on tire la corde, eh bien, on se rend compte que ça va actionner la flexion du majeur, la flexion de l'index, la flexion de toute la main. Et quand tu vois ça en vrai, en fait, tu te rends compte que juste, c'est comme un piano. Tu tires une corde et il se passe quelque chose de mécanique alors que la personne est décédée. Hein. Tu te dis, en fait, le corps, c'est une mécanique. Et ça, c'est absolument
passionnant.
Donc, tu apprends pendant 3 ans à comprendre cette mécanique, comprendre cette logique. C'était super bien parce que du fait d'avoir cette proximité, d'avoir... c'était pas mal de boulot quand même, mais j'ai eu la chance de rencontrer mes meilleurs amis.
C'est plus pratique aussi que les premières années où vraiment dans la théorie.
Oui. Le travail de la main, ça c'est absolument génial. Littéralement, tu te dis, encore une fois, tu as 20 ans, tu as un outil qui sont tes deux mains, qui jusque-là t'ont servi à écrire ou jouer à la PlayStation, et là tu apprends à essayer d'écouter ta main, à essayer de ressentir, à essayer de retravailler avec ta main. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un métier qui est à la fois manuel et cérébral, qui mélange très bien les choses.
Donc, la longueur des études, tu me disais, c'est 3 ans?
Et c'était 3 ans à l'époque, c'est passé en 4 ans aujourd'hui. À l'époque, on avait encore, excuse-moi l'expression, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que depuis 5 ans, heureusement, la kinésithérapie a décidé de se réapproprier un raisonnement scientifique et on est passé licence, master, doctorat avec vraiment des revues, des ressources scientifiques là où nous on avait vraiment en fait un apprentissage très empirique à savoir nos ancêtres kinés, la kiné ça a été inventé je crois dans les années 1940 donc quand même assez tard et ils ont toujours fait ça donc nous on va le refaire, cherche pas à comprendre gamin pourquoi, fais ça et puis ça marche. Et du coup, aujourd'hui, les étudiants ont beaucoup plus une approche scientifique en disant, on va faire des études scientifiques pour savoir exactement, je dis n'importe quoi, quel est le meilleur traitement pour la tendinite. Et puis, on va se rendre compte que ce qu'on pouvait faire avant, comme les étirements, les ultrasons, le froid, ça ne va pas être beaucoup plus efficace que l'effet placebo.
Ouais,
et ça, en fait, ce raisonnement-là, il est tout récent, ce qui fait qu'on a une vraie nouvelle génération de kinésithérapeutes à venir qui seront vraiment dans l'application de connaissances scientifiques, prouvées scientifiquement.
Oui, uniquement, ça, ça on va dire, des praticiens. Qui sont
dans des praticiens qui font comme on a toujours fait parce qu'on te l'a appris comme ça. Donc, 3 ans qui se passent comme ça. Je continue mon parcours, tu avais une question. Et pour le coup, il me manquait, j'avais toujours eu envie de voyager. Et quand tu es kiné diplômé, avec le diplôme français, c'est très difficile de travailler à l'étranger. Et moi, j'avais envie de partir loin. Du coup, on est parti dans les dom-toms et on est parti en Guadeloupe, un peu comme ça par hasard. Et je suis parti 5 ans vivre en Guadeloupe.
5 ans en Guadeloupe.
Ouais, 5 ans en Guadeloupe.
Tu exerçais là-bas?
J'exerçais là-bas et alors, je vais te la faire courte, mais je pensais travailler 3 mois en Guadeloupe, puis après partir au Pérou, revenir en Martinique, puis faire un stage humanitaire en Argentine. Je suis arrivé en Guadeloupe, au bout de 3 mois, j'ai rencontré mon épouse, je suis tombé amoureux et je suis resté 5 ans en Guadeloupe avec elle. Et après, on est rentré en métropole.
Trop bien, d'accord. Et quand tu arrives là-bas, en fait, comment ça se passe quand tu es kiné? En fait, tu trouves un cabinet, enfin, tu te mets à ton compte directement, comment ça se passe?
Alors, moi, j'avais un plan de carrière qui était de me dire, j'ai envie d'avoir mon cabinet à moi à 40 ans. Et la raison pour ça, c'était de me dire, ma priorité, c'est ma vie perso. Ma deuxième priorité, c'est de savoir exactement comment fonctionne la kinésithérapie. Et ma troisième priorité, c'est de savoir comment fonctionne un business. Je t'explique, monter un cabinet, on ne te l'apprend pas à l'école. On t'apprend pas à gérer les charges, à gérer le loyer, gérer les patients, gérer la comptabilité, on ne te l'apprend pas. Et moi, je suis sorti de l'école et je savais très bien que j'étais pas un bon kiné. Je savais très bien qu'il fallait que je me fasse la main, qu'il fallait que je me confronte aux patients. Et ça, je m'étais donné peut-être 3 à 4 ans pour le faire. Et donc, j'ai vu beaucoup de mes copains de promo qui sont sortis, qui avaient trop hâte d'être dans la vie active, qui se sont montés des cabinets. Sauf que quand t'as pas d'expérience ni de ce que c'est un patient, ni de ce que c'est gérer une entreprise, parce que c'est une petite entreprise, tout est un peu bancal. Moi, je voulais faire les choses dans l'ordre. Donc pendant 2 ans j'ai fait des remplacements, c'est-à-dire que les kinés en Guadeloupe qui partaient en vacances, qui étaient en congé maladie, tu y vas et tu travailles à leur place. Ce qui est d'hyper intéressant par rapport à ça, c'est que ça te permet vraiment, tu m'entends toujours ?
Oui, bien sûr.
Ouais. Ce qui est d'hyper intéressant par rapport à ça, c'est que ça permet de savoir un peu ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire dans le métier. Parce que en fait,
tu n'es pas bon kiné surtout en fait, c'est-à-dire que tu dois quand même à un moment donné faire des choix. Donc toi, je sais
clairement
qui est dos.
Et exactement, entre le dos, la pédiatrie, la gériatrie, l'urogynéco, la pneumo, la cardio, tout ça. Où nous, on a un savoir-faire qui est général. Et en fait, il y a à peu près autant de kinésithérapie qu'il y a de kinésithérapeutes. Littéralement, on a un très gros problème d'homogénéité dans nos savoir-faire, dans nos pratiques, dans nos approches. Ce qui fait que c'est très compliqué pour chaque kiné de communiquer avec les médecins et pour les patients de sortir de là en disant bah voilà, je suis sorti de chez le kiné et voilà ce qui m'a fait. En fait, aujourd'hui, quelqu'un qui sort de chez le kiné, il peut aller voir 5 kinés différents qui vont lui faire 5 diagnostics différents, qui vont lui faire 5 traitements qui seront plus ou moins les mêmes. Ce qui fait que c'est très compliqué pour les patients d'être capable de dire bah voilà, je suis allé chez le kiné et voilà ce qui m'a fait faire.
Ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais au-delà de ça, c'est que tu t'es rendu compte qu'en fait, il fallait que tu te fasses la main et que tu et que t'apprennes. Est-ce que tu as eu des mentors, des personnes qui t'ont aidé? Parce que tu as fait tes études, mais c'est assez humble et c'est je trouve que c'est assez fort. Tu me dis, je sais que j'étais mauvais kiné à ce
moment-là. Ah oui.
Au moins, recul, quoi. Mais comment tu as fait justement pour te former et pour passer le cap?
Alors, j'ai eu 2 mentors vraiment en kiné. C'est encore mon mentor aujourd'hui. L'autre, on a un peu perdu contact. Le premier, c'était un de mes profs à l'école, qui est Xavier Dufour, qui est aujourd'hui directeur de l'ITMP où j'enseigne. C'est vrai que j'ai pas fini mon CV, mais je suis aussi devenu enseignant depuis 3 ans en thérapie manuelle. J'en parlerai juste après. Et l'autre, c'était un kiné qui bossait en Guadeloupe. Et donc, après 2 ans de remplacement, j'ai voulu me fixer un peu parce que je commençais à savoir ce que je voulais faire. Je me suis installé dans un cabinet de kiné et je suis arrivé là. Jusque-là, autant te dire qu'en France, on a la chance en tant que kiné, on ne connaît pas le chômage. Il y a plus de demandes que d'offres. Il y a plus de patients qu'il y a de kinés. Du coup, tu arrives dans un cabinet, il suffit juste que tu saches à peu près dire bonjour, au revoir. Ton emploi du temps sera plein. Et donc là, je suis arrivé dans ce cabinet de kiné et... alors que je m'attendais à avoir un emploi du temps plein, ils voulaient tous être avec Marc. Tous les patients venaient pour être avec Marc. Et donc, tu as deux attitudes par rapport à ça. Soit tu te dis, Marc, c'est un gros connard et il prend tous les patients. Soit tu te dis, je vais peut-être essayer d'apprendre un peu ce que Marc fait. Et Marc, il avait 42-5 ans, mais c'était une pile électrique. Littéralement, lui, il avait une main. Il suffisait vraiment qu'il mette ses mains sur toi. Déjà, il savait que ça n'allait pas psychologiquement, physiquement. Et en 5 minutes, il te faisait un massage. Tu avais l'impression qu'il t'avait massé pendant une heure et demie. Et donc, d'être à côté de Marc, je me suis dit, mon vieux, maintenant, il faut un peu te bouger les fesses. Et si tu veux que les gens veulent venir te voir toi, il faut que tu commences à bosser comme lui. Et du coup, de lui, j'ai vraiment pris cette énergie à être capable de gérer plein de choses à la fois, de te concentrer sur ta main, d'écouter les gens. Donc lui, il m'a vraiment appris la pratique. Et une fois que j'avais cette pratique-là, je commençais à comprendre un peu comment fonctionnait le corps humain, comment fonctionnaient les gens. Je me suis formé en thérapie manuelle. Pour la faire courte, la thérapie manuelle, c'est comme l'ostéopathie, en enlevant tout ce qui est purement empirique et en conservant tout ce qui est purement scientifique. Donc, on va avoir toutes les mobilisations articulaires, tout le travail neuro-comportemental, tout le travail de remise en charge progressive. Bref, c'est assez technique, mais ça donne un panel très, très large entre un hybride, entre ce que pourrait être un kiné et un ostéo. D'accord. Et donc, ça, c'était une formation sur un an que j'ai faite en Guadeloupe. Ça, c'était un gros coup de chance. J'étais là au moment où ils sont venus. Ils venaient, c'était 28 jours de formation et que j'ai pu mettre en place directement avec mes patients en Guadeloupe. D'accord. Ça, pendant 5 ans. Et après, je suis rentré en métropole, à Toulouse, ma femme étant ingénieure aéronautique.
Oui. On se doute où elle travaille.
Exactement. et là, pareil, gros coup de chance, tombe dans un cabinet de kiné avec des bonnes personnes qui bossent bien, qui te tirent vers le haut. Et je crois que la plus grosse chance que j'ai eue dans mes 10 ans de pratique, c'est que je ne suis tombé qu'avec des confrères qui me tiraient vers le haut.
Et quand tu dis tirer vers le haut, c'est-à-dire avec lesquels tu partageais, t'apprenais, tu remettais en cause ta pratique, c'est ça ?
Exactement, exactement. Exactement. Et ça, je pense que j'ai quasiment autant appris en formation qu'en échangeant avec mes collègues sur le terrain. Et toujours avec beaucoup de bienveillance. Jamais quelqu'un qui dit « Mais Greg, t'as fait n'importe quoi », mais qui va dire « Tiens, pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça ? Regarde-moi, c'est ce que je te propose. » Et l'échange avec les confrères, c'est énorme.
Tu me parles d'échanges avec tes confrères et globalement, moi, il y a quelque chose que je retiens dans tout ce que tu me dis, c'est l'écoute, que ce soit avec tes confrères ou que ce soit aussi avec tes patients, visiblement, parce que là, quand tu me parlais de ton expérience avec Marc en Guadeloupe, en fait, j'ai l'impression que lui, il comprenait. Enfin, il y a presque une dimension psychologique, non ? J'ai l'impression.
Je vais être tout à fait franc avec toi. Beaucoup plus qu'une dimension psychologique. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ce qu'il y a d'hyper intéressant aujourd'hui, tu le sais comme moi, on commence à découvrir les neurosciences. Et les neurosciences en kinésithérapie, c'est absolument passionnant parce que le critère numéro un qui amène les gens dans un cabinet de kiné, c'est la douleur. Et aujourd'hui, on commence à comprendre un peu la douleur et on sait que dans la douleur, il y a certains facteurs qui augmentent la douleur, d'autres facteurs qui diminuent la douleur. Et l'un des facteurs qui augmenterait le plus la douleur, c'est tout l'aspect psychologique. Et là, on va prendre juste 2 minutes, si tu veux bien, Pauline, parce que c'est hyper intéressant.
Moi, ça me passionne complètement, donc prends plus que 2 minutes.
C'est que je reçois souvent des patients qui sortent de là en disant « Mon médecin m'a dit que la douleur, c'était lié au stress et que la douleur était dans ma tête. » Et le raccourci là-dedans, c'est que les gens se disent « J'invente ma douleur » ou « Je suis fou » et « Mon médecin, il botte en touche.
»
Alors, en fait, en réalité,
l'inverse, excuse-moi, il y a aussi une mythologie sur tout est dans ma tête, exactement. Je peux dire non à la douleur.
Exactement. Et en fait, il y a deux choses là-dedans. C'est que, un, la plus grosse connerie qu'on puisse penser, c'est que de séparer le corps et l'esprit. Je pense que malheureusement, le seul moment où le corps et l'esprit, et encore ça dépend des croyances de chacun, se séparent, c'est lorsqu'on meurt. Maintenant, les deux sont en corrélation permanente. Et grâce aux neurosciences, on est capable, en fait, de mettre des structures sur ce qui fait cette corrélation, qui sont des neurotransmetteurs, c'est des petites molécules qui sont dans ton cerveau et dans tout ton corps, qui font qu'en fonction de ton état d'esprit, il va y avoir différents messages qui vont s'envoyer dans ton corps. Que ce soit le stress, que ce soit le bonheur, que ce soit la bienveillance, que ce soit la peur, et tout ça, ça va avoir des liens directs. Donc, on va prendre un exemple très concret. La cervicalgie, les gens qui ont mal au cou, tu sais qu'ils vont se retrouver avec les deux épaules un peu surélevées, avec des douleurs au niveau des trapèzes en permanence. Souvent, ces gens-là, on va leur dire, vous avez mal parce que vous êtes très stressé. Mais en fait, en réalité, ce stress va induire un message au niveau notamment des trapèzes de se contracter en permanence. Et là, tu es dans un cercle vicieux. Donc,
oui, parce qu'en plus, plus t'as mal, plus t'es stressé.
Exactement. Et plus t'as mal, plus t'es stressé, moins bien tu dors. L'action du sommeil est essentielle. Et donc, t'as tout ce côté où finalement, des neurosciences, aujourd'hui, on en revient à, en fait, ce qui marcherait le mieux, probablement, ce sont les bases. Quand tu as des douleurs au niveau des trapèzes, on peut te sortir tout le diagnostic de la terre que tu veux. Finalement, là où il y a plus de chances pour améliorer tes symptômes sur le long terme, c'est si tu recommences à dormir correctement. C'est si jamais tu arrives à avoir une pratique sportive régulière. C'est si jamais tu arrives à avoir des petits exercices quotidiens de méditation, de bienveillance, de reconnaissance, où tout ça va faire que ton cerveau, d'un message douloureux, va décider tout simplement d'être moins attentif au message douloureux. Ça ne veut pas dire que tu masques le problème, ça veut juste dire, en fait, plutôt à l'inverse, que tu avais un problème auquel ton cerveau accordait trop d'importance alors qu'il n'y en avait pas vraiment.
Mais je trouve que cette vision holistique que tu décris, c'est-à-dire qui n'est pas uniquement un kiné qui va être très focalisé sur la mécanique, mais justement sur les neurosciences, exactement, sur la dimension psychologique, c'est quelque chose qui s'applique un peu à tout, alors dans la médecine en particulier, mais je pense qu'il est hyper important d'essayer de prendre un peu de recul parfois quand tu as un problème et de se dire, en fait, je ne vais pas juste soigner le symptôme, tu vois, je vais... et de prendre un peu de recul et se dire, ok, d'où ça vient vraiment.
Exactement. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais justement du tournant qu'on avait pris c'est en littérature de la kinésithérapie, c'est vraiment grâce à ce tournant-là. Je vais te donner un exemple qui est très, 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 très parlant. On va prendre le mal de dos, c'est vraiment ma spécialité. Aujourd'hui, ce qui arrive aussi régulièrement, c'est le cas inverse. Quelqu'un qui n'a pas mal au dos, et pour X raisons, il va passer des radios, mal de genou, mal de dos, mal d'épaule, il va passer des radios. Alors qu'il n'avait aucune douleur, on va lui dire, vous avez de l'arthrose, vous avez un petit pincement discal, vous avez un spondylolisthésis, alors que lui n'a aucune douleur. Et là, il va dire, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est que littéralement, on commence à comprendre aujourd'hui que notre dos, comme notre visage, vieillit. On peut avoir des rides au niveau du visage, c'est pas une pathologie. On peut avoir des cheveux blancs, c'est pas une pathologie. Eh bien, on a de l'arthrose, c'est pas une pathologie. Et qu'il y a des gens qui ont des dos qui sont criblés d'arthrose sans aucune douleur et des gens qui ont aucune arthrose avec de la douleur. Et donc là, la seule explication, au début, on disait, c'est le radiologue qui a merdé ou alors c'est le patient qui raconte n'importe quoi. Et finalement, c'est arrivé dans tellement grand nombre qu'aujourd'hui, on est capable de dire que il y a quasiment autant de gens qui ont des remaniements au niveau du dos, qui ont des douleurs et d'autres qui n'ont pas de douleur. Ça veut dire que le remaniement simple qu'on peut voir en radio n'est pas toujours en lien avec la douleur. C'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'on en revient à la globalité, quoi. C'est hyper intéressant.
Et toi, dans ta pratique, maintenant, tu inclus justement cette dimension. Enfin, comment est-ce que tu l'inclus? Comment tu l'inclus, alors, cette dimension un peu plus
littéralement, oui, je l'inclus. Et c'est pour moi ce que je préfère dans mon métier. Systématiquement, quand un patient arrive, je fais un bilan. Une demi-heure.
Alors, est-ce que tu peux me décrire justement, je n'avais pas prévu de te poser cette question, mais ça m'intéresse. Comment ça se passe concrètement quand un client débarque?
Quand un patient vient, donc soit il est envoyé par son médecin avec une ordonnance, soit maintenant pour les problèmes de cheville, entorse de cheville et problèmes de dos, on a la première intention. Donc ils peuvent venir nous voir directement. Donc, Madame Michu, venez, asseyez-vous. Donc systématiquement, les gens ont gardé cette image du kiné. Moi, quand je les amène dans une salle, il y a à peu près 50% des patients qui commencent déjà à s'allonger sur la table. C'est-à-dire que je viens chez le kiné, il va me faire un massage. Et moi, ce que je me dis, c'est un peu comme si vous alliez chez le médecin et que le médecin, avant même de vous poser une seule question, il vous donnait la boîte de médicaments en disant, prenez ça. Donc moi, j'ai dit, non, asseyez-vous sur la chaise, on va discuter un petit peu. Alors déjà, ça les surprend un petit peu. Et ma première question, c'est, qu'est-ce qui vous amène ici? Et là, tu vas avoir trois types de personnes. Tu vas avoir la première personne qui va te dire exactement quel est son problème. Moi, j'ai mal au dos quand je fais ça. Ok, cool, on va pouvoir avancer. T'as un autre qui va arriver avec un diagnostic. C'est-à-dire que lui, il a mis un mot sur ce qu'il fait souffrir et il veut que tu soignes le mot, mais dans les deux sens du terme. Donc, il va te dire, j'ai une tendinite du genou. On va déjà refaire un bilan pour savoir si ce que vous avez, c'est bien une tendinite. Sachant que aujourd'hui, avec 10 ans d'expérience, je n'ai pas confiance dans l'autodiagnostic des gens, j'ai un peu moins confiance dans le diagnostic des médecins et je n'ai pas confiance dans mon propre diagnostic. Je m'explique, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans une pratique essai-erreur. Je sais que ça se fait beaucoup dans l'entrepreneuriat quand tu veux monter en entreprise. Tu ne vas pas commencer à monter ta boîte full stream, enfin pleine balle. Tu vas d'abord essayer sur un échantillon et voir comment ça réagit. C'est exactement pareil avec nos patients. C'est-à-dire que pour une tendinite de genou, je vais poser quelques questions, lui dire « bon, bah très bien, on va rester sur le dos parce que ça concerne plus de gens ». Il dit, penchez-vous en avant, penchez-vous en arrière, à gauche, à droite. Est-ce que vous avez mal quand vous avez ça? Est-ce que vous avez tel signe? Je teste tous les signes neuro, je teste tous les signes éventuellement vasculaires et j'établis une ou deux, trois hypothèses de diagnostic. Et en fonction de mes hypothèses de diagnostic, je vais mettre en place quelques traitements, soit des étirements, soit du renforcement, soit du travail de relâchement musculaire. Et en fonction de savoir comment ça répond à mon traitement, je sais si mon diagnostic est bon ou pas. T'as suivi ou c'était trop technique?
Non, mais complètement. Et en fait, je me rappelle, là, j'étais en train de réaliser que je suis exactement dans ce cas de figure de la personne qui débarque et qui dit « je pense que j'ai un tennis elbow et je suis pas moi comme une débile ». Et surtout, en fait, il s'est passé exactement. Donc, je pense qu'il était bon puisque, pour la petite histoire, il m'a fait faire des mouvements, des exercices et tout. Et en fait, il s'est avéré que c'était absolument pas un tennis elbow et que c'était un syndrome…
cervico-brachial.
Justement.
Exactement. Yeah. Donc, pour expliquer aux gens, la tennis elbow, c'est la tendinite qu'on appelle maintenant tendinopathie au niveau des releveurs du poignet. Souvent, les gens qui sont beaucoup à l'ordinateur ou avec la souris. Et donc, c'est une douleur, notamment quand vous allez remonter le poignet. Et je pense que des vrais tennis elbow, il devrait y en avoir quasiment entre 15 et 20%. Et la plupart du temps, ce sont plutôt des problèmes d'origine cervicale avec une petite irradiation au niveau des paquets vasculo-nerveux qui sortent des cervicales, qui descendent tout le long du bras et qui irradie dans le membre supérieur. Et donc, la plupart du temps, quand quelqu'un vient en disant « j'ai un tennis elbow », il vient vous dire en disant « c'est là que j'ai mal », il met le doigt sur un point qui est très précis et quand vous allez regarder son épaule et ses cervicales, il vous dit toujours « non, non, c'est au niveau du coude que j'ai mal ». Je dis « oui, je sais, mais moi, je vais aller regarder plus haut ». Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour toi, Pauline ?
Exactement. Et d'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Donc... Mais je trouve ça hyper intéressant et je pense que ça incite, et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça incite en permanence à se questionner, à se remettre en cause, tu vois, et à pas voir, si tu veux, la surface uniquement, et à se dire, et je pense que le corps humain, et comme tu le dis, c'est mécanique et tout est lié, et il y a cette vision holistique qui est hyper importante. C'est pas parce que t'as mal au coude, comme moi c'était le cas, qu'en fait ça vient du coude. Et moi, je me rappelle que ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais en fait, vraiment, je ne comprends pas mon corps. Et quand tu prends un peu de recul, c'est vrai que c'est assez déstabilisant.
je peux tout à fait le comprendre.
Je voulais parler un petit peu quand même de, au-delà de là, ton métier de kiné, de ce qui a fait aussi que tu as décidé, tu me parlais de vulgarisation, et on voit d'ailleurs que tu t'exprimes très très bien sur le sujet, mais qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de passer un cap et de devenir une personne qui allait parler de ton métier, aider via les réseaux sociaux, via ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé justement dans cette aventure du monde social?
Alors, Je vais raconter tout le processus parce que je pense que ça peut être intéressant et les gens vont peut-être se retrouver là-dedans. La première chose qu'il faut savoir, donc comme je l'ai dit, c'est que moi je suis devenu enseignant en thérapie manuelle. J'adore enseigner, j'adore communiquer. Et je me rendais compte que les gens appréciaient la manière que j'avais de parler, justement de ce côté vulgarisateur où tu vas pas chercher à rentrer toujours dans les détails, mais déjà revenir sur les bases. Ensuite de ça, aujourd'hui, moi, ce gamin de 14 ans qui a envie d'aider les gens, il est encore là, présent en moi. Et le mal de dos, ça représente aujourd'hui 80% de la population qui a eu, aura ou a mal au dos. C'est absolument énorme. Ça représente 1 milliard d'euros dépensés par an uniquement pour traiter la lombalgie. Donc l'enjeu santé publique, économique, il est absolument majeur. Et je me dis, c'est pas normal qu'en 2019, alors que aujourd'hui, on commence vraiment à avoir la littérature de savoir ce qu'il faut faire pour traiter le mal de dos, que ce soit le mal du siècle. C'est pas normal que aujourd'hui, quand tu tapes mal de dos sur Internet, que la première réponse qui sorte, ce soit un site sponsorisé pour des tapis ou pour des correcteurs posturaux, et que le site de la HAS qui te donne toutes les recommandations qui sont faites par des experts sorte en page 3. Et je me dis, en fait, il y a vraiment un gros gouffre entre la médecine qui sait, ou au moins qui essaie de savoir, hein, on ne sait pas tout bien sûr, et tout le côté communication, marketing de produits miracles à deux balles. Et je trouve ça dommage. Et puis finalement, quand tu vas sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, En tout cas, avant que je me lance sur le mal de dos, qui est-ce qui allait en parler? Bah, soit ce sont des témoignages de gens qui sont allés chez le kiné, qui vont avec leurs mots essayer de raconter plus ou moins ce qu'il a vu chez son professionnel, soit des coachs sportifs, soit parfois d'autres professionnels de santé qui sont absolument pas formés pour ça. Ou des marques, et là c'est vraiment compliqué. Et donc, moi j'ai eu cette vocation assez forte de me dire « Ok, en fait, on va essayer de ramener un peu de bon sens, de dire que ce serait trop simple de dire que t'as mal au dos seulement à cause de ta posture, que ce serait trop simple de dire t'as mal au dos parce que t'as ton psoas qui tire un petit peu et parce que t'as le bassin décalé et que scientifiquement, ces trois explications, scientifiquement, elles ne valent pas un copec. Et que l'honnêteté intellectuelle et scientifique, elle serait de dire aujourd'hui, si on réunit tous les plus grands scientifiques qui connaissent le mal de dos, aucun n'est capable de dire ça, c'est le problème du mal de dos. C'est tellement plus contextuel, plus compliqué que ça, qu'on ne peut sortir que des grandes tendances, qui sont les mêmes que j'ai dit pour la cervicalgie. Finalement, on sait que dans 95% des cas, le mal de dos n'est pas grave, qu'il y ait un peu de remaniement arthrosique, qu'il y ait un peu de débord discal, qu'il y ait un peu d'inflammation, que globalement, si on le traite uniquement comme s'il s'agissait d'un changement d'état au niveau du dos et qu'on a des outils pour améliorer les symptômes, globalement, ça va bien se passer. On ne nie pas la présence de la douleur, on ne dit pas que c'est complètement dans la tête, on dit c'est probablement un peu de tout ça, et qu'en mélangeant des petites solutions de tout ça, on va avoir une amélioration des symptômes, rendre les gens autonomes. Et cette vocation, tu vois, d'essayer de rendre les gens autonomes, rendre les gens actifs, refaire bouger les gens dans un cadre de confiance, et de leur dire, là par contre, si ça, t'as ce signe-là, il faut que tu ailles consulter. C'est-à-dire que rendre les gens autonomes, mais pas complètement aveugles.
Oui. J'allais te dire, c'est vrai que t'es quand même toi, normalement, vraiment dans la personnalisation extrême quand même.
Et donc ça, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de me lancer, cette vocation très très forte. Et c'est ce qui fait que tous les jours, quand je me lève, je me dis « Ok, ça c'est ce dont j'ai envie de parler, c'est le message que j'ai envie de faire passer. » Et ça me motive à fond. Et d'un point de vue perso, ouais, j'ai toujours aimé, tu vois, quand j'étais gamin, je faisais des films avec mes copains, je montais, je me mettais en scène. Ça, c'est, je l'ai appris plus tard, c'est l'expression soft skill que vous avez beaucoup dans l'entrepreneuriat. Finalement, tous ces petits savoir-faire extérieurs à ton domaine d'expertise qui peuvent t'apporter une vraie plus-value. Et donc, moi, ça, je l'avais. Et je me suis dit, bon, bah, go.
Bah, on dit souvent que les personnes qui vraiment émergent, tu vois, ont un succès, c'est souvent parce qu'en fait, ils arrivent non pas à être juste uniquement très très bon dans leur domaine, mais à allier deux ou trois compétences qui parfois pourraient paraître complètement absurdes ensemble. Donc toi, par exemple, le fait que tu arrives à hyper bien t'exprimer, à très bien te mettre en scène, et par ailleurs que tu as ton expertise médicale très forte, ta passion. En fait, c'est cette combinaison un peu magique des trois ensemble qui fait que tu es complètement unique et que probablement c'est complètement lié à ton succès aussi, quoi. Si tu avais uniquement été très bon médicalement,
c'est ce que je dis souvent, tu vois, c'est que moi le succès je le mets toujours vraiment entre parenthèses, mais j'ai pas du tout la prétention d'être le meilleur kiné de la terre, et loin de là, je connais des mecs qui sont mille fois meilleurs que moi. La seule chose, c'est que soit ils ont pas le temps, soit ils savent pas pour communiquer, soit ils ont juste pas envie aussi, hein.
Et alors, comment est-ce que tu as démarré, donc tu te dis que tu veux vulgariser un petit peu le monde de la kiné, que tu veux aider surtout et diffuser, et je le comprends complètement. Comment tu démarres, comment tu te lances, c'est quand même un métier qui n'a rien à voir avec ce
que tu faisais. Ouais, alors ça faisait 2-3 ans que je suivais des kinés américains et qui vulgarisaient, qui le faisaient bien sur les réseaux sociaux, et 2-3 ans que je me disais, c'est fou, il n'y a aucun Français qui le fait, aucun Français qui le fait. Et je me dis, peut-être que ça veut dire que c'est toi, tu sais manier un micro, tu sais te filmer, tu sais raconter des blagues autour de sujets qui sont pas forcément marrants. Et donc, je te parlais de mon deuxième mentor qui est Xavier Dufour, le directeur de l'ITMP. Et puis, eux, ils avaient pour projet de lancer la chaîne YouTube de l'ITMP. Donc, j'ai une chaîne pour les kinés où on va te montrer le test neuro, les tests de fracture, tout ce que tu veux, mais vraiment pour les kinés. Et on en discute. Ouais. Et à Noël, donc ça, on était au mois de février. Moi, à Noël, j'avais déjà ce projet de majeur mouvement. J'avais demandé à mon épouse de m'offrir un micro et un pied. Et on avait commencé à faire des vidéos à la fin de la journée de boulot. Donc, il est 19h30 au cabinet de kiné. T'es vanné de ta journée. Là, tu te dis, bon, bah, je vais poser une caméra. Je vais me filmer. Ça ressemble à rien. Mais bref, de ça, j'arrive à sortir et à monter 3 vidéos. Il me faut une heure et demie de travail pour sortir une vidéo de 45 secondes. Et je commence un peu à baisser les bras. Mais j'ai ces 3 vidéos sur mon téléphone. Et je discute avec Xavier qui me dit, bah voilà, on a la chaîne YouTube. Et là, je me dis, j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure parce que j'ai tout ce projet-là. Et je me dis, en fait, c'est Xavier la solution. Et je lui en parle et je dis, bah tu sais, il y a des kinés américains, ils font de la vulgarisation. Alors, je lui montre un compte, deux comptes. Et là, je lui sors mes vidéos et j'y vais au bluff. Je lui dis, sinon, il y a ce petit Français qui se lance. Et là, je lui montre les vidéos que j'avais filmées. Et là, comme dans Bref, tu sais, il regarde la vidéo, il me regarde, il regarde la vidéo, il me regarde, il regarde la vidéo. Et là, il me dit, mais c'est vachement bien ça, Greg. Et là, j'ai dit oui. Et j'avais vraiment, ça faisait 2 ou 3 ans que j'y pensais. J'ai dit, bah voilà, ce que je pense qu'on peut faire, c'est des vidéos d'information pour le grand public qui se prennent, tu donnes du contenu sérieux, mais où tu le donnes à la légère. Le lundi, tu fais, voilà ce que c'est la lombalgie. Le mardi, tu donnes un étirement. Le mercredi, tu donnes un exercice de renforcement. Le jeudi, un exercice de mobilisation. Le vendredi, un récap de la semaine. Et le samedi, une idée reçue. Il me dit, OK. Go, super. À partir de vendredi, tu viens à Paris. Donc moi, j'exerce toujours. Hein. Je travaille au cabinet 4 jours par semaine. J'ai absolument pas le temps de faire une vidéo par jour. Donc je fais comme ils le font à la télé, c'est-à-dire que je prends une journée de tournage. Je tourne 80 épisodes dans la journée. Grâce à l'ITMP, j'ai quelqu'un qui filme mes vidéos, qui me les monte et qui me les renvoie. Et ça, c'est ce qui m'a permis, en fait, j'ai passé pas mal de temps à comprendre comment Instagram fonctionnait. Instagram, c'est un peu chiant, mais lui, il accorde de la valeur à la quantité plus qu'à la qualité. Pour créer du contenu sur Instagram, il faut poster du contenu quotidiennement, que ce soit bon ou que ce soit pas bon.
Et quand tu dis bon, c'est-à-dire que c'est bon au niveau du contenu ou au niveau visuel? Parce que souvent on dit Instagram, il faut que ça soit beau. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est en train de changer. C'était le cas au début d'Instagram, quand c'était un lieu où il n'y avait que des graphistes et des photographes. Mais maintenant, les gens cherchent du contenu avant tout.
Exactement. Donc, tu peux tout à fait avoir du contenu moche et très bien marcher sur Instagram. Alors quand je dis moche, c'est un fond, je te dis n'importe quoi, un fond vert avec une phrase jaune. Mais si la phrase jaune est magnifique, tu auras du monde. Par contre, ce qui compte, c'est que ta phrase jaune, elle sorte tous les jours. Et ça, c'est chiant. Parce que ça veut dire qu'il y a certains jours, tu peux pas être bon tous les jours, tu peux pas raconter des trucs renversants tous les jours. Donc il faut créer du volume et donc voilà.
Ton organisation, parce que justement c'était un sujet qui m'intéressait énormément, le fait que tu aies 2 activités, que tu continues à travailler et à être kiné, et ça je pense que c'est important de le dire. Donc ma compréhension, c'est que tu t'organises au sens où tu batches, donc tu sépares vraiment les deux. C'est un peu ce que je fais avec le gratin et Gémio, mais en gros les jours où tu bosses sur Major en Mouvement, t'en fais la journée et tu enregistres un certain nombre de vidéos. Est-ce que tu peux m'expliquer justement cette organisation, et au niveau d'Instagram aussi, parce qu'Instagram, on a la sensation que c'est quelque chose que tu dois faire en permanence, un peu pris sur le vif, le côté très spontané. Est-ce que tu là aussi tu t'organises?
Alors ça aussi, je pense que ça va être assez intéressant pour tous ceux qui t'écoutent, qui sont pas forcément dans la sphère kiné mais qui veulent développer des business sur Instagram. Moi j'ai 4 activités. La première, c'est d'être kiné. Je le fais 4 jours par semaine. Ensuite, créateur de contenu sur Instagram, ce qui me prend entre 2 et 4 heures par jour. En plus de ça, je suis enseignant en thérapie manuelle, ce qui me prend un week-end par mois. Et en plus de ça, je fais des conférences en entreprise sur la posture, sur le bien-être et sur tout ce que je raconte. Je fais des conférences comme ça en entreprise. Donc beaucoup beaucoup de temps, et obligatoirement il a fallu que je m'organise et que je segmente tout ça. C'est-à-dire que ça m'a pris du temps, ça m'a pris quasiment 1 an pour réussir à me dire, quand je suis au cabinet de kiné, je suis pas en train de gérer un partenariat. Quand je suis au cabinet de kiné, je suis pas en train d'écrire ma prochaine conférence. Quand je suis avec Madame Michu, je suis pas en train de faire une story. C'est con à dire, mais je te jure que il y a un côté très très addictif d'Instagram. En plus de ça, moi j'aime créer quelque chose. Donc plus tu crées sur Instagram, plus t'as de retour, plus ça te donne envie de créer. Et donc
aujourd'hui, c'est toi qui gères, je suis désolée de t'interrompre, c'est toi qui gères vraiment les contenus. C'est-à-dire, donc, j'ai compris que t'as externalisé le montage, mais par exemple, tu réponds aux commentaires. Enfin, vraiment, parce que c'est un temps qui est monstrueux.
Alors, c'est moi qui fais tout. Hein. C'est moi qui suis derrière mon Instagram. C'est pour ça qu'il y a, y a beaucoup de personnes à qui je ne peux pas répondre. Mais je fais toujours l'effort de répondre aux 30 ou aux premiers 50 commentaires. Et je pense que c'est l'erreur numéro 1 que je vois des gens qui créent du contenu sur Instagram, qui essaient de développer un business sur Instagram. Si vous ne répondez pas aux gens qui prennent le temps de vous écrire, vous pourrez pas créer une communauté. C'est juste pas possible. Quand les gens prennent du temps pour essayer d'échanger avec vous, que ce soit en message privé ou en commentaire, il faut prendre du temps pour répondre. Et donc, on peut évidemment pas répondre à tout le monde, mais moi, je sais que j'ai trouvé aujourd'hui un équilibre entre je sais ce que me demande Instagram et je décide, moi, de quand j'ai envie d'être libre dessus. Donc, je peux très bien ne rien dire pendant 24 heures d'affilée et le lendemain faire 25 stories. Tout simplement parce que comme dans la vraie vie, il y a des jours où t'as pas envie de parler, des jours où t'as envie de parler. Et je comprends que c'est pas exactement comme ça que fonctionne l'algorithme d'Instagram, où lui, ce qu'il voudrait à Instagram, c'est que tu postes quasiment une story toutes les deux heures, mais ça colle pas à la vraie vie, qu'il faudra que tu répondes à tout le monde, mais ça colle pas à la vraie vie, et j'ai pas envie de déléguer mon Instagram à quelqu'un d'autre.
Oui, t'as pas non plus envie,
j'ai pas envie de faire que ça. Donc, pour en venir aux gens qui voudraient développer des business sur Instagram, et je ne parle que d'Instagram, mais c'est vraiment comprendre que la communication, je pense, sur les réseaux sociaux, c'est un vrai choix de communication. C'est quelque chose qui prend du temps. Et moi, aujourd'hui, je le sais. Ouais.
Comme tu vois, quand on crée une activité, hein, tu peux pas le faire. La demi-mesure ne fonctionne pas.
Exactement. Et je pense qu'il vaut mieux, par exemple, privilégier un ou deux réseaux sociaux sur lesquels on est prêt à investir du temps plutôt que d'avoir une vision transversale en étant un peu sur Facebook, un peu sur Insta, un peu sur LinkedIn, un peu sur YouTube, et essayer d'être sur TikTok et finalement d'être nulle part. Et du coup, pour moi, ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que quand j'ai fini par monter mon cabinet il y a 3 ans, ce que je voulais faire, c'était aller en entreprise pour faire des conférences gestes et postures. Je me suis dit, il y a un vrai marché à faire, il y a de plus en plus de qualité de vie en entreprise, les entreprises ont des budgets pour ça, j'ai l'expertise, je vais pouvoir y aller. Et littéralement, Pauline, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé faire du porte-à-porte et on m'a dit, vous êtes gentil, monsieur le kiné, mais vous allez faire la queue comme tout le monde derrière tous ceux qui ont vu ce business-là. Et je me dis, c'est pas la bonne entrée. Et en fait, assez paradoxalement, c'est Major Mouvement qui m'a donné la légitimité d'intervenir en entreprise.
C'est
cette visibilité. Et moi, c'est pour ça que tu vois, je fais quasiment mais aucun placement de produit sur ma page Instagram parce que ça m'intéresse pas. Je ne me vois pas une seule seconde poser avec une marque de dentifrice, avec des écouteurs ou le nouvel iPhone en disant Major vous vend ça. Ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, mon business model, c'est de faire des conférences parce que j'aime ça, j'aime rencontrer les gens. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a vraiment un côté très individuel dans le soin qu'on peut apporter. C'est que je donne des grandes lignes générales, mais à un moment donné, rencontrer les gens, voir exactement quels sont leurs problèmes pour essayer de leur apporter une solution individualisée, que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou que ce soit à l'échelle de l'individu en soin, c'est tellement passionnant que c'est, tu vois, tout le travail que je fais sur Instagram, il est pour me permettre de faire ça derrière.
Une question que je voulais te poser, on en a parlé un petit peu avant, tu sais, c'est par rapport au fait que cette visibilité de Major Mouvement puisse paraître difficile à gérer pour quelqu'un qui est dans le secteur médical, où on sait que normalement tu n'as pas le droit de faire la publicité. Et en fait, donc j'ai regardé beaucoup évidemment tes vidéos et tout, et puis de toute façon, je te suis déjà avant, mais j'ai trouvé que la vidéo que tu avais faite où tu parlais de la différence entre patient et client était hyper intéressante. Et je veux bien, si ça te va, que tu m'expliques justement quelle est ta position là-dessus et comment justement toi tu fais la part des choses.
C'est une ligne éthique que je me suis mise dès le départ. Très très tôt, c'est-à-dire que moi je savais que ce que je voulais faire c'était de l'information et pas de la communication. Ça peut être très proche, mais éthiquement pour moi la différence elle est fondamentale. C'est-à-dire que ce que je fais quand je vais par exemple parler de la hernie discale, je vais expliquer ce que c'est la hernie discale et je ne vais pas dire derrière acheter, je dis n'importe quoi, le Linback 360 pour soigner la hernie discale. C'est-à-dire que je le veuille ou non, aujourd'hui Major Mouvement il représente la kinésithérapie, que je le veuille ou non. Si jamais demain Major Mouvement il vend sa veste pour promouvoir des produits merdiques comme on me l'a encore proposé ce matin, quels sont mes tarifs pour faire la promotion de t-shirts posturaux, je leur réponds systématiquement c'est 1 milliard d'euros, c'est le coût de ce que vous faites en la désinformation médicale. Et même pour 1 milliard d'euros je ne le ferai pas, mais c'est cette ligne éthique de dire si je fais de l'information. Aujourd'hui, on prend Michel Simès quand il est au jour. Enfin, je vais prendre lui parce que c'est probablement le plus célèbre des médecins. mais il fait le journal de la santé, il fait Dr. Good, il explique certaines choses. À partir du moment où tu commences à devenir en fait un vendeur de quoi que ce soit, c'est autre chose. Maintenant, dans certains partenariats, en fait, on est vraiment sur, en plus de ça, sur ce qu'on appelle du droit mou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça, tu peux le faire, ça, tu peux pas le faire. Je sais très bien.
Oui, y a pas de, voilà,
là où il y a une délimitation très précise, c'est que littéralement, je n'ai pas le droit de dire « je suis Grégoire Intel, j'exerce à tel endroit et mes tarifs s'étendent ». Ça, je n'ai pas le droit de me faire de l'autopromotion. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un pseudonyme Major Mouvement. Et encore, si on va plus loin, c'est que, et là on peut le voir notamment chez les avocats, le droit français est soumis au droit européen. Alors, je ne suis pas avocat et je ne suis pas juriste, hein, donc il est possible que je dise des conneries, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit, et que le droit européen nous autoriserait à communiquer sur nos propres activités, notamment sur nos spécialités. Pourquoi ? Parce que littéralement, aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport aux pages jaunes ou par rapport au Doctolib, où tu peux voir les spécialités d'un professionnel de santé, et pourtant, nous, on n'aurait pas le droit de dire, bah voilà, moi, je suis formé en thérapie manuelle et je fais de la kiné-respi pour les enfants en cas de bronchiolite. Ça, en droit français, j'ai pas le droit de le dire. En droit européen, j'aurai le droit de le dire. Mais pour un patient, ça fait quand même toute la différence s'il vient me voir pour un problème en urogynéco et que je suis pas formé ou s'il vient me voir avec son bébé. Donc, tu vois, c'est la différence entre information et communication est parfois faible et pourtant, éthiquement, elle est assez claire.
Non, mais je comprends complètement ton point de vue. Mais après, à l'inverse, bon, bah, moi, j'ai essayé d'avoir à plusieurs reprises des médecins sur le podcast. Et en fait, je pense qu'il y a aussi maintenant un peu une terreur, si tu veux, du monde médical de communiquer, donc d'informer, pas de communiquer, parce que ça peut être mal perçu et je trouve ça dommage. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais très contente de t'avoir. C'est que il y a un besoin d'information, de vulgarisation. Oui, après, il faut aller voir un professionnel de santé, évidemment, quand on a un problème spécifique, mais ça ne veut pas dire que tu vas
Exactement.
Vendre quelque chose, tu vois.
Et il ne faut pas tout mélanger. Et je vais revenir sur deux choses que tu as dites, c'est hyper intéressant. C'est qu'ils ont peur, et à juste titre, hein, moi, il y a des kinés qui ne peuvent pas me blairer, mais ça reste une minorité. La grande majorité des kinés, ils me disent, on est content que tu sois là pour nous représenter et pour parler. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais globalement, je suis content que tu sois là. Et pour moi, c'est la plus belle reconnaissance, celle de mes pairs. Et la deuxième chose, c'est que quand tu te penches vraiment sur le truc, tu te rends compte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'information médicale en termes de santé publique, elle n'est pas faite par les médecins. Elle n'est pas faite par les professionnels de santé. Et aujourd'hui, la consommation des gens, elle se fait, qu'on le veuille ou non, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tu ne peux pas juste dire, ah ben non, aujourd'hui, en 2019, tu peux pas dire, ah ben non, moi, c'est pas comme ça que j'ai appris, je le laisse de côté parce que ça n'est pas digne de mon exercice. Bah, c'est peut-être pas digne de ton exercice, mais aujourd'hui, quand les gens ont un symptôme, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont le taper sur Google. Et moi, j'en ai pour preuve, c'est très bête, mais que, quand tu mets, par exemple, douleur de genou, Google, la première chose qu'il te propose, c'est douleur de genou gauche ou droite. Quand tu as fait un tout petit peu d'anatomie, tu sais très bien que ta douleur, qu'elle soit à gauche ou à droite, enfin, que ce soit le genou gauche ou droit, ça ne change rien.
Ouais,
tu vois? Donc, c'est ce que les gens regardent.
C'est énorme. Tu me parlais aussi, juste avant qu'on commence, de développement personnel et du fait que toi, je pense, avec toutes tes activités, avec le travail que tu mets dans Major Mouvement, plus les conférences, sincèrement, c'est impressionnant, que tu étais peut-être un peu perdu. Est-ce que tu peux m'en parler, m'expliquer justement pourquoi ton développement personnel t'avait commencé à te rattraper et
bien,
t'intéresser autant?
En fait, tout est allé super vite. Major Mouvement, ça n'a pas encore 2 ans et hier j'ai fêté mes 200 000 abonnés, tout réseau confondu. Et des sollicitations pour des conférences, j'en ai en permanence. Tout est allé très très vite, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à autant, je le mets encore une fois entre guillemets parce que le mot succès, parce que pour moi, le succès ne peut se fixer que dans le temps. 1 an, 2 ans, ça reste un buzz. Et j'ai pas envie que Major Mouvement soit un buzz. Mais c'est pour moi pas encore un succès. La première année, j'ai énormément, énormément travaillé. Je ne savais pas travailler là-dedans. Je ne savais pas, je disais oui à tout, systématiquement. Je ne savais pas m'organiser et vraiment mais j'ai pris la tasse de tous les côtés, que ce soit au cabinet, que ce soit à la maison. J'ai eu mon deuxième fils à ce moment-là, on a emménagé, ça a été très très compliqué. J'ai eu la chance d'avoir une femme extrêmement patiente et extrêmement compréhensive par rapport à tout ça. Surtout qu'elle, elle est pas du tout branchée Instagram, ça l'intéresse pas, elle comprend pas trop parce qu'elle a pas envie de comprendre, mais elle comprenait que ça me passionnait.
Ouais, c'est pas évident pour le conjoint, c'est pas évident aussi le côté.
Mais elle comprenait qu'elle voyait que pour moi il se passait vraiment quelque chose et elle l'a compris. Tout en me mettant quand même de temps en temps, Greg, là, il y a un moment donné, t'as déconné par rapport à ça, donc reconcentre-toi sur les choses les plus importantes. Donc pendant un an, ça a été très dur. J'ai eu littéralement deux boulots à temps super plein. Je travaillais 15-16 heures par jour sans trop savoir où j'allais, mais en sachant que fallait que je le fasse à fond. Et je suis arrivé à 100 000 abonnés. Et là où je m'attendais, tu vois, à être hyper ému, à hyper être content en disant « Ouais, cool, ça y est, j'ai 100 000 abonnés », en moi, il ne s'est rien passé. Que dalle. Et je me suis dit « Qu'est-ce que tu attends ? Tu attends d'avoir 200, tu attends d'avoir 500, tu attends d'avoir 1 million pour pouvoir être heureux ou pour avoir être satisfait ? Ou est-ce que c'est uniquement une chute perpétuelle en avant d'un succès qui ne serait qu'un chiffre ? Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais des neurosciences pour les patients et je me dis, en fait, Greg, c'est exactement comme pour tes patients. Tu es certes en train de travailler pour un truc, mais en réalité, tu es en train de passer complètement à côté des choses les plus importantes. En chemin, tu t'es complètement oublié. J'avais pas mal arrêté le sport. À la maison, physiquement, j'étais là, mais j'étais une carcasse vide. C'est-à-dire que physiquement, j'étais là, mais dans ma tête, j'étais en train de penser à mon prochain article, à ma prochaine conférence, à mon prochain poste, à tel commentaire que j'avais reçu. Et je me dis, mais en fait, tu peux littéralement pas continuer comme ça, en fait.
Et comment tu as eu ce déclic, en fait? Tu te rappelles d'un moment particulier?
J'étais dans ma douche. J'étais dans ma douche et j'étais depuis le matin en train de refresh mon Instagram pour voir quand est-ce que j'allais passer de 99 990 à 100 000. Et puis ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là où je m'attendrais vraiment à exploser, j'ai eu le 100 000. J'ai dit à ma femme, chérie, ça y est, j'ai eu 100 000. Elle dit, ah, ok, c'est cool, tu vas déposer les enfants parce que là, tu commences à être en retard. Et là, j'ai pris ma douche et je me dis, ouais, en fait, elle a raison, quoi. Elle a raison. Et tu vois, t'as ce côté où c'est comme si t'avais fait une course, t'arrives à une ligne d'arrivée, tu te dis, en fait, courir, c'était beaucoup plus agréable que d'arriver. Et ça, plus je sentais que ça faisait un petit moment, en fait, que je regardais ma vie passer et littéralement comme si... le train de ma vie était en train de passer. Moi, j'étais sur le quai comme ça et puis je le regardais passer en me disant « Bon, il arrive quand le train des 100 000, tu sais ?» Et puis finalement, ça arrive et tu te dis « Bon, en fait, c'est pas le bon train, je suis pas dans la bonne gare, faut que je me casse tout de suite, quoi. » Et j'ai commencé du coup beaucoup plus à m'intéresser aux petites choses, à regarder beaucoup de vidéos de développement personnel, notamment des Américains. Tu vois, j'ai revu la vidéo, bon, c'est extrême, tu vois, mais de Tony Robbins, le reportage « I'm not a guru ». Je sais pas si tu l'as vu sur Netflix, c'est extrême, ça va très loin, mais t'as ce côté-là, tu vois, où il te dit j'ai envie que les gens vivent leur propre vie. Et c'est vrai que moi, en fait, là-dedans, j'avais commencé à mettre les œillères et je la vivais plus, quoi. Et donc,
Et maintenant, t'as des pratiques oui, justement au quotidien ou des routines qui arrivent à j'aime bien le mot en anglais ground, c'est-à-dire te remettre les pieds sur terre, te réancrer. T'as des choses comme ça qui font que t'es plus dans la course perpétuelle en avant, parce que toi tu le vis à l'extrême avec tes activités, mais je pense que c'est un mal qu'on vit tous,
clairement. Notre
perso, clairement.
Alors j'ai trois trucs. Un, le sport. Clairement, il faut que je fasse du sport, sinon je deviens chiant, je deviens désagréable, je broie du noir, j'ai que des mauvaises idées. Il faut que je fasse du sport 2 à 3 fois par semaine. J'ai la chance d'avoir un sport qui m'amuse. Et c'est le jiu-jitsu brésilien, c'est vrai. Ah bon, cool. Oui, c'est ça, mais c'est un.
J'en ai jamais fait. J'ai hésité, puis je me suis dit bon, c'est quand même pas très féminin comme sport, et comme il y a que des mecs dans les clubs français. Alors, parisiens, je me suis dit bon.
Donc c'est ma prof Laurence Cousin Fouillat qui fait 1m55 et qui étale des mecs d'1m90. Et elle est géniale. C'est une athlète de haut niveau et elle nous enseigne à nous avec beaucoup de simplicité. C'est un sport de combat, hein, et elle est au top là-dedans. Donc nous, on a la chance d'avoir pas mal de filles qui viennent s'entraîner avec nous parce que elles préfèrent être aussi entraînées par des filles, par une fille, bref. Donc ça, c'est cool. Et donc moi, je m'amuse vraiment. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous ne savez pas quel sport vous devez faire pour votre santé, ma réponse est très simple, c'est faites le sport qui vous plaît. La natation n'est pas meilleure pour le dos que le handball, que le tennis ou que l'équitation. Ce que je dis toujours, c'est qu'il vaut mieux que vous fassiez trois fois un sport dans la semaine plutôt que vous ne fassiez pas un sport. Et donc, pour tous ceux qui n'aiment pas aller nager, ne culpabilisez pas de ne pas aller nager. Faites le sport qui vous plaît et c'est l'assiduité qui compte le plus du moment que vous êtes progressif. Je dis progressif par rapport au mec qui voudrait aller se mettre au crossfit alors qu'il n'a pas du tout la musculature, la mobilité de base. Tu m'avais posé une autre question. Oui, mais donc le sport.
Donc le sport qui te permet de réancrer un petit peu.
Il y a une
peu,
autre habitude, je pense que les gens qui m'écoutent le savent, mais je le répète, pas d'écran après 22 heures. Stop, ça faut juste arrêter. Littéralement, que ce soit Netflix, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit tout ce que tu veux, toutes ces plateformes sont faites pour que tu restes dessus. Littéralement, dans ton cerveau, ils l'ont bien compris. Les neurosciences, eux, ils les ont bien compris avant nous. Il y a une raison pour laquelle quand tu regardes Netflix, ils te proposent directement la petite vidéo suivante, directement le truc suivant. C'est pour ça que le scrolling, ça marche si bien. C'est pour ça que YouTube a des vidéos qui te proposent juste pour faire en sorte que tu restes. Et donc, le petit « Tiens, je vais me détendre, je vais regarder un truc de 10 minutes et ça dure une heure et demie et tu ressors, t'es crevé, tu te réveilles le lendemain de matin, t'es fatigué et t'accumules une dette de fatigue et à chaque fois le soir, t'as en fait deux circuits de récompense qui s'activent, celui de la dopamine qui va juste te dire « Tiens, connecte-toi rapidement pour voir combien t'as eu de likes, combien t'as eu de commentaires ou juste pour voir le générique de Game of Thrones de te lancer parce que ça, ça va te booster » versus en fait j'accumule une heure et demie de fatigue que je vais jamais pouvoir attraper. Donc ça, c'est une discipline vraiment qu'il faut faire. Un, pas d'écran dans la chambre, littéralement. Moi, mon téléphone, il est dans le salon, il y a un étage et ça me fait chier d'aller devoir le mettre et j'ai un réveil. Et de deux, vraiment, il faut être dur avec soi-même, il faut être ferme parce que littéralement, quand ton cerveau, il est en mode consommation d'écran, il perd toute capacité décisionnelle parce qu'il va beaucoup, pour lui, c'est beaucoup plus facile en fait pour ton cerveau en termes de coût énergétique de ne rien faire et de subir un choix plutôt que de dire non, ça y est, j'arrête. C'est coûteux en énergie de faire ça.
Bien sûr. Et puis en plus, c'est un temps finalement. Enfin, exactement. Tu es obligé de trouver une autre activité si tu veux. Une activité
exactement.
De réflexion, je sais pas, de lecture.
Donc, donc ça, c'est indispensable. Le sommeil, c'est indispensable. Et la dernière chose, alors celle-là, elle est plus subtile, mais c'est de savoir profiter de ce que j'appelle les faux moments cool. C'est-à-dire, c'est littéralement, tu vois, il m'en est arrivé ce matin quand j'ai déposé mon fils à la crèche, j'étais un peu en avance. J'ai déposé mon fils à la crèche et je l'ai mis à un endroit, et tu sais, quand tu regardes tes enfants et qu'ils savent pas que t'es là, ils ont pas le même visage, ils ont pas la même gestuelle, ils ont pas la même tête. Et là, je suis resté là pendant 10 minutes à le regarder. 10 minutes, hein? 10 minutes. Et ces faux moments cool, en fait, si tu prends le temps de les analyser dans la journée, je pense que tu peux en avoir au moins 3 ou 4 par jour. Juste dire, je suis là, je me mets en observateur. C'est assez proche de la méditation, hein, finalement. La méditation, c'est ça, c'est de se dire, je vais vivre l'instant présent. Et de se dire, je m'en fous si mon téléphone sonne, je m'en fous si on m'appelle, je m'en fous si j'aurai 10 minutes de retard, je vais me faire engueuler, c'est pas grave. Et c'est juste ce moment où tu prends l'instant présent. Ça fait gourou pour le coup, hein, mais prendre l'instant présent, prendre le temps d'être dans l'instant présent et de pas être dans qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer après. Et ça, c'est probablement le truc qui est le plus efficace pour moi.
Écoute, merci beaucoup pour ces conseils parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et tu vois, comme quoi, je savais en t'interviewant qu'on parlerait pas du tout que de kinésithérapie, mais là, tu m'as emmené.
On avait parlé de gainage pendant la course, et finalement, on n'en a pas parlé.
Ouais. Attends, parce que là, ça fait quand même une heure qu'on parle.
Ça fait une heure.
Mais je vais me faire engueuler après, moi. Je te demande comment est-ce qu'on fait pour, au workplace, tu vois, savoir comment adopter la bonne posture, etc. Travail.
Alors, je vais répondre. En une minute, la bonne posture n'existe pas. La meilleure posture, c'est la prochaine. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est bouger. Donc, toutes les 5-10 minutes, vous prenez un mouvement où vous allez vous redresser. Toutes les heures, vous prenez une minute où vous allez faire 10 mouvements, où vous allez vous enrouler le dos, et le dos creux et le dos rond. En fait, la bonne posture, c'est le mouvement. Parce que le corps n'aime pas rester toujours dans la même posture.
Ce que je comprends, c'est que pour que je comprenne, c'est par exemple si tu es assis face à ton ordinateur, il ne faut juste pas que tu restes assis de la même manière toute la journée. Il faut que tu... Mais même des petits mouvements, ça peut suffire, se pencher en avant, décroiser les
jambes. Se pencher en arrière, bouger.
Donc, te lever, d'aller marcher, quoi.
Exactement. Exactement. D'accord. En fait, la douleur depuis la posture, elle n'est pas à cause du fait d'être dans cette position-là, la pencher en avant. C'est d'être penché dans cette position-là pendant 8 heures. Tu as tout ton système musculaire, cardiovasculaire, pulmonaire qui, en fait, ne bouge pas et qui a juste besoin de bouger.
D'accord. Qu'est-ce que tu penses du fait de travailler debout pour certaines personnes ?
Je pense que c'est une très bonne chose. Il y a un temps d'adaptation. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit un plaisir. Accepter quand vous faites la transition de passer la première journée une demi-heure, puis une heure, puis au bout de deux semaines passer deux heures, d'avoir envie de vous asseoir quand vous avez envie de vous asseoir, d'avoir envie de vous mettre debout. Et en fait, le souci quand on est assis devant son ordinateur, c'est que littéralement on diminue le champ des possibles de mouvement, comme quand on est dans la voiture. Et si vous regardez une journée classique, ça va être: je me réveille, je suis assis pour prendre mon petit déjeuner, je vais prendre mon transport en commun ou ma voiture, je suis assis. J'arrive au boulot, je suis assis. Je déjeune avec mon collègue, je suis assis. Je discute l'après-midi, enfin, je bosse l'après-midi, je suis assis. Je mange, je suis assis. Le vrai problème, c'est pas la posture, c'est le fait d'être assis en permanence.
Ouais, hyper sédentaire. Je te pose peu de questions parce qu'en fait, c'est pas ça, c'est que je veux te poser des questions plus sur toi encore. Je suis intéressée par ça quand même. Quand même, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur les étirements, à quel moment s'étirer, quels bons étirements faire, etc. Et j'avoue que j'ai un peu l'impression qu'il y a tout et son contraire qui est dit sur le sujet. Donc, je voulais, si tu y arrives, avoir un petit résumé de toi, tes best practices là-dessus.
Ok, mes best practices en 45 secondes. Si tu as envie de t'étirer et que ça te fait du bien, étire-toi. Si tu n'as pas envie de t'étirer et que ça ne te fait rien, ne t'étire pas. Point barre.
Il ne faut pas faire de fixette sur les étirements.
Exactement. En fait, les étirements, ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est pour ça que tu dis il y a tout et son contraire, c'est qu'en fait, c'est individu dépendant. Ça dépend des gens. Tout simplement. J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus où j'explique tout.
Je la mettrai en lien.
Ouais, tu la mettras en lien. Plutôt que de dire quand est-ce qu'on doit s'étirer, c'est plutôt pourquoi on doit s'étirer. En fait, l'étirement va pas être le même si jamais tu veux faire du yoga ou de la danse, où là tu as vraiment besoin d'une grande amplitude, ou si juste tu es assis au bureau toute la journée, où là tu as plus besoin de capacité de mouvement.
Et quand on fait du sport, typiquement running, etc., il est utile de s'étirer, ou là aussi c'est un mythe ?
C'est un mythe. Moi je m'étire plus. Je m'étire. En fait, l'étirement qu'on va pratiquer va avoir uniquement pour but de diminuer un message douloureux. Il n'allonge pas le muscle, contrairement à ce qu'on pense, il diminue un message douloureux. Point barre. Il va le diminuer d'une durée qui va durer entre 20 minutes et 48 heures. Point barre. Ce qui marcherait le mieux, en fait, c'est du renforcement dans toute la course. Un peu comme on va faire yoga, où finalement, c'est le fait de venir chercher un mouvement. Où en fait, quand tu vas chercher un mouvement, tu vas activer tes muscles sur de l'allongement. Et ça allonge le muscle. Ce que ne fait pas l'étirement. C'est ce qu'on pense, hein. C'est ce que nous dit la science aujourd'hui. Donc, ce qui marcherait le mieux, c'est le fait de bouger et de venir chercher loin. Et c'est pour ça qu'on en vient plus à ce qu'on appelle de la mobilité, qui serait un geste dynamique, que de l'étirement. Si on prend un exemple très très simple, si vous mettez votre main la plus loin derrière sans bouger, vous allez faire un étirement du grand pectoral. Par contre, si jamais vous amenez votre main derrière, vous la ramenez devant, vous l'amenez derrière, vous la ramenez devant, c'est du renforcement en excentrique, donc en allongeant les fibres, et en course externe, en étirant un maximum, du grand pectoral. Ce qui marcherait le mieux, ce serait plutôt la mobilité que l'étirement. Type yoga, type pilates, et donc ça, on le garderait en échauffement musculaire, on peut le faire en échauffement, et en récup après l'entraînement, deux heures après ou le lendemain, en fonction des dispos.
Hyper intéressant.
Et pour finir, essayez un peu tout et gardez celui qui vous fait le plus de bien. Je me suis étiré pendant 10 ans, j'avais vachement de courbatures, j'ai arrêté de m'étirer, je n'ai plus de courbatures.
D'accord, très bien. Non, mais c'est bien. Alors, justement, la dernière question à ce sujet, c'est quelles sont pour toi les plus grandes idées reçues sur la kinésithérapie ou sur le corps humain ? Enfin, des choses juste que tu as envie de partager sur le sujet, parce que tu en as marre de, à chaque fois, avoir des gens qui te disent « et ça, gna 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 » et en fait, alors, je vous arrête tout de suite.
Trois choses. Deux dont on a parlé. Faites plus confiance à votre ressenti qu'à uniquement un examen. médical, type cliché, radio IRM. La clinique, ce que nous on appelle clinique, mais c'est finalement votre ressenti, prend le pas sur un examen. Après, si jamais un examen, on a une fracture, on a un cas qui est vraiment compliqué, on va écouter ça. Mais par contre, c'est vraiment votre ressenti et l'examen, la combinaison qui nous donne un état de votre santé. C'est pas tout l'un ou pas tout l'autre. Je sais pas si j'étais très clair. Tu me permets de la refaire ou pas, cette réponse, s'il te plaît?
Bah, vas-y.
OK. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas un cliché radio. On le sait aujourd'hui qu'une douleur est pas forcément liée à un cliché radio et inversement. C'est plus complexe que ça. Et c'est vraiment une question de mélanger à la fois ce qu'on comprend de la radio et votre ressenti qui est le plus important. Donc, ne vous enfermez pas dans un diagnostic, car on a toujours une évolution possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait sur les tendinites. Une tendinite, le traitement, c'est pas le repos, ni le froid, ni l'étirement, c'est une remise en charge progressive. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez mal quand vous courez 10 km, eh bien, on va vous faire courir 2 km et faire du renforcement spécifique des muscles autour pour faire en sorte que ce soit moins douloureux. Évidemment, vous allez consulter. Ça marche assez bien. Et la troisième idée reçue, c'est que celle-là, elle peut faire un peu chier, excusez-moi pour l'expression, mais que globalement, tous les résultats qu'on a sur le long terme sont plutôt sur du travail actif de la personne qui a mal que sur du travail passif. C'est-à-dire que globalement, encore une fois, pour aller mieux, ça ira mieux si vous bougez à votre niveau, non pas au niveau que vous aimeriez avoir, mais à votre niveau, et ce de manière régulière. Donc concrètement, ça veut dire si vous allez courir une fois tous les 15 jours et que vous vous crachez vos poumons, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux que vous alliez courir 2 à 3 fois par semaine. Je vais donner un exemple qui est assez facile à comprendre. C'est de dire, c'est un peu comme si vous disiez, bah moi, j'ai pas le temps de manger de la semaine, du coup, je vais faire tous mes repas de la semaine et je vais tout bouffer le lundi. Débarrasser votre corps, il marche pas comme ça.
Ouais, d'accord. Ouais, c'est pareil. C'était intéressant. Pour terminer, Greg, ouais, j'aime bien poser des petites questions dans le cadre de mon crible, le crible du gratin, et notamment une question que je voulais te poser, c'est une de tes plus grandes peurs, si tu en as eu une, et comment tu l'as surmontée ou pas?
Alors, ma plus grande peur en ce moment, je suis désolé, je vais faire bader tout le monde, mais c'est clairement sur l'écologie, et elle est à deux titres. Elle est un, de ne vraiment pas savoir à quoi va ressembler le monde de mes enfants aujourd'hui, et quand je me figure le visage de mes enfants aujourd'hui avec leur visage dans 40, 50, 60 ans, ça me fait flipper. Et humainement, aujourd'hui, de voir que littéralement on est dans une maison qui brûle et que nos priorités sont pas d'éteindre le feu de la maison, mais de savoir quel cache-caille on va acheter ou savoir si cette montre connectée, elle est mieux que la précédente. Et ça, ça me fait flipper. Donc, je suis désolé parce que j'ai pas la solution. Malheureusement, la solution ne passe pas à l'échelle de l'individu. Elle ne passe qu'à l'échelle d'une population complète et d'une population complète mondiale. Et ce qui me fait flipper, c'est de me dire, heureusement, on est de plus en plus de voix à dire la maison brûle, mais concrètement, on sait pas dans quelle direction aller pour éteindre l'incendie. Ça, ça me fait chier. Cool. On finit sur une note.
Non, mais merci. Écoute, merci. Une autre question, tu vas voir, très agréable, puisque je vais te demander un moment difficile de doute, d'échec, et puis surtout, en fait, quel enseignement t'en as retiré, parce que bah, on a parlé de succès, même si t'as l'humilité de dire que voilà, enfin, tu sais pas si ça va durer et tu le prends comme il est. Mais j'aime bien derrière ça voir l'envers du décor et savoir qu'il y a eu aussi des moments vraiment durs, quoi, pour en arriver là. Peut-être dans le cadre de tes études, je sais pas.
Est-ce qu'il y a un truc? Un truc, je pense, qui va plutôt pas mal parler aux gens. Là, en ce moment, je suis en train de me préparer pour le Half Marathon des Sables. Quand j'ai dit oui, je pensais que c'était un semi-marathon au Sable d'Olonne. En fait, il s'avère que c'est 120 km dans le désert péruvien et c'est le 30 novembre. Donc, j'ai dit go, alors que je ne suis absolument pas coureur et je n'aime pas courir. Toi, je sais que tu cours. Et donc, j'ai dit ok. Et c'est en autosuffisance alimentaire. Ouais.
T'aurais dû m'appeler avant, je t'aurais dit, n'y va pas.
Donc, en plus, je connais du monde au Sable d'Olonne et je connais personne au Pérou, mais bon, bref. Et donc, c'est en autosuffisance alimentaire, donc t'as 8 kilos sur le dos. Du coup, là, j'en suis à 9 semaines de préparation. Quand j'ai accepté que j'ai su que c'était ça, je me suis dit, bon, allez, go, t'es sportif, tu peux y aller. Mais psychologiquement, je n'arrivais pas à me représenter ce que c'était 120 kilomètres. Vraiment, mon cerveau, comme quand on explique à un gamin de 6 ans ce que c'est l'infini et qui se dit, mais je ne vois pas, moi je sais compter jusqu'à 27, donc au-delà de 27, je ne sais pas. Donc moi, c'est là où mon cerveau en était là. Et vraiment, dans ma tête, je commençais à avoir un dialogue interne qui était très, très dur. Et un matin, je suis sorti en ce qu'on appelle en low carb, c'est-à-dire que tu ne manges pas la veille, tu ne manges pas le matin et tu vas courir. Je suis parti pour 20 km avec un peu de dénivelé et 6 kilos sur le dos. L'intérêt de courir en low carb, c'est pas pour perdre du poids, c'est que tu obliges ton corps à utiliser une autre filière énergétique qui est une filière plutôt, alors j'ai peur de dire une connerie, énergétique lipidique, où tu vas venir vraiment puiser dans tes lipides et ainsi t'entraîner à courir sur du très longue distance, c'est-à-dire que d'abord ton corps va utiliser le sucre, puis après les lipides, et quand tu vas courir au-delà d'une heure et demie, deux heures, il va plutôt passer sur un autre système de filière énergétique, les lipides. Je crois que c'est ça, il est possible que je me plante et je suis désolé si je me plante. Quoi qu'il en soit, je suis parti là-dessus et j'ai essayé d'écouter un podcast sur l'écologie et justement pour comprendre pourquoi l'être humain ne changeait pas ses habitudes écologiques malgré l'urgence. Et je suis allé, mais psychologiquement, dans des endroits où je ne pensais jamais aller. Et j'ai en fait découvert vraiment ce que c'était un dialogue interne infernal. Et je me suis auto-dévalué, mais pendant une heure et demie, où tu te dis, vraiment, t'entends ta voix qui est très dure, qui appuie là où ça fait mal, qui te dit, t'es qu'une sombre merde, tout ce que tu fais sur Instagram, ça ne vaut rien, tu n'arriveras à rien. Qui est-ce que tu pensais convaincre quand t'allais te partir sur 120 km alors que t'es pas capable de te faire 13 km? Dès qu'on te met dans la difficulté, machin, et là, t'es dur. Et j'ai, à la fin de ce podcast, en plus de ça, tu le rajoutes, c'est bientôt la fin de l'espèce humaine, tout ce que tu veux, tes gamins vont crever. La totale, hein, mais j'étais mais au fond du show. Comment? Et juste après, j'écoute un podcast qui s'appelle The Championship Mindset, hein, bref, où il t'explique comment réfléchissent les grands champions. Et là, le mec, il te fait une liste de 20 choses à faire pour pouvoir être dans un bon mood. Et là, je te jure, j'ai vraiment cette sensation de ressort, quoi. Je suis descendu tout au fond et je me suis revu bondir. Et du coup, j'ai fait cette course de 20 km, juste moi seul. J'ai rencontré mon pire ennemi. J'ai vu qu'il avait une sale gueule et j'en suis ressorti. Et je parle de ça, c'était il y a un mois. Hein, et j'ai 32 ans, donc des expériences comme ça, je suis content de l'avoir vécu parce que demain, ça va me réarriver. Et je saurai quelle gueule a mon ennemi. Je saurai qu'en attendant et en ayant des bonnes prédispositions mentales, tu peux t'en sortir. Et ça vaut pour le sport, mais ça vaut pour tellement de choses dans la vie que c'était... tu vois, le côté où même quand tu es tout seul, tu peux apprendre une des leçons qui va déterminer tout le reste de ta vie, quoi. Exactement. Donc, j'ai rencontré mon dialogue interne il y a un mois.
Bah écoute, merci en tout cas pour le partage. Ma dernière question, c'est les livres que tu recommandes le plus autour de toi ou qui t'ont le plus marqué.
Alors moi, mon livre de chevet, c'est Le vieil homme et la mer, que j'adore, d'Hemingway, que j'ai lu, je crois, en 3 heures. Et ce que j'aime, c'est la persévérance d'un vieux monsieur qui a plus rien à prouver, mais qui a en même temps tout à prouver. Ça me passionne. J'ai lu récemment le livre de Catherine Testa, Oser l'optimisme, qui fait du bien. Juste le livre, tu le lis, ça fait du bien. Et dans la même lignée, j'ai fait une conférence et j'ai eu l'occasion de l'écouter, Fabrice Midal, le sociologue et philosophe, qui a écrit Foutez-vous la paix, et qui littéralement te permet d'arrêter de culpabiliser. Et quand t'enlèves la culpabilité, quand t'enlèves cette charge mentale de la culpabilité, bon Dieu, ça fait du bien. Donc ça, c'est mes 3 livres qui sont très rapides à lire et qui font du bien.
Bah écoute, merci beaucoup Greg. Merci. Merci pour tout ton temps. Franchement, c'était passionnant et je regrette pas du tout, non seulement de t'avoir invité, mais je regrette juste de pas avoir plus de temps et qu'on puisse continuer. Mais vraiment, je voulais te remercier. Si on veut te retrouver quand même si je pense que tout le monde sait te retrouver, mais sur les réseaux sociaux, sur le monde du web, ouais. On va sur l'Instagram
de Major Mouvement, YouTube de Major Mouvement et sur LinkedIn où je donne plus des conseils vraiment pour les pros. Donc comme c'est pro, j'ai le droit de le dire, Grégoire Gibault sur LinkedIn. En tout cas, Pauline, merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. Et ce que j'aime bien, et je pense aussi ça c'est un conseil que les gens peuvent garder, c'est je pense ta plus grosse force, c'est quand tu poses une question, on voit que tu t'intéresses vraiment à la réponse. Et ça c'est hyper agréable. Alors merci Pauline.
Écoute, merci à toi et puis je te dis à bientôt.
À bientôt, bye bye.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.